Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Salut, je m'appelle Solène Rigoulet et bienvenue dans Friendship. Friendship, c'est le podcast où des amis témoignent, racontent leur histoire pour t'accompagner dans tes relations. Des amis se livrent pour que leurs erreurs ou leurs réussites puissent t'aider sur le long chemin de la vie. Et je suis très heureuse de te retrouver pour un nouvel épisode aujourd'hui en immersion. Te proposant un podcast sur l'amitié depuis 3 ans, je me devais de recevoir ici des bénévoles de l'association SOS Amitié. Alors pourquoi te les faire découvrir? Quel est le rôle de l'association? Qui les appelle? Comment évolue-t-il? Les réponses dans cet épisode. Un immense merci à mes trois interlocuteurs de SOS Amitié, Bernard, Ghislaine et Quentin. Merci pour leur temps et leur confiance. Toi, auditeur et auditrice, j'espère sincèrement que cet épisode va te plaire. Et sur ce, je te souhaite une très bonne écoute.
Vous les copains, je ne vous oublierai jamais.
Dans l'amitié, il n'y a pas de fidélité. Pas de légitimité à être jalouse, par exemple. Il n'y a pas d'alliance, pas de cérémonie, pas de champagne pour célébrer une amitié. Pourtant, de toutes les relations qu'on a dans la vie, il y a des chances pour que les amitiés soient celles qui durent le plus longtemps.
L'homme le plus riche est celui qui a les amis les plus puissants. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be
there. You can count on me cause I can count on me. À quoi ça sert, les amis, si on peut pas leur parler de ce qui compte vraiment?
N'est-ce pas vous-même qui m'avez dit que rien ne remplaçait une véritable amitié?
Ton ami, c'est moi, tu sais, je suis ton ami.
Alors voilà, on y est. Friendship va bientôt souffler sa 3e bougie, et avec plus de 80 épisodes réalisés, je n'avais toujours pas contacté cette association si célèbre et aussi mal connue que l'on a en France, SOS Amitié. Dès le premier jour où j'ai lancé Friendship, j'ai créé une liste avec des idées de sujets à aborder, des noms d'invités. Et cette année, je me suis dit, Solène, vas-y, contacte-les. J'ai peut-être attendu 3 ans, mais ça valait le coup. J'ai rencontré 3 bénévoles de l'association, Ghislaine, Quentin et Bernard. J'ai eu des échanges avec eux très riches. J'ai découvert l'association et ses missions. Mon objectif est rempli. Reste simplement maintenant à te faire connaître un peu mieux leur travail. Parce que oui, tu vas entendre, SOS Amitié, ce n'est pas qu'une association pour celles et ceux qui n'ont pas d'amis. C'est ce que je pensais. Mais c'est bien plus que ça. Une petite explication sur SOS Amitié si vraiment tu ne connais pas. C'est une asso de loi 1901, reconnue d'utilité publique, qui assure une permanence téléphonique pour écouter des Français en souffrance qui ressentent le besoin d'appeler et de parler à quelqu'un.
Alors, je suis Ghislaine Dessagne, je suis donc présidente de SOS Amitié depuis janvier 2022, écoutante à SOS Amitié depuis une bonne dizaine d'années. J'ai la joie d'être retraitée une retraitée active, puisqu'en tant que présidente, on est très occupée. Alors, SOS Amitié existe depuis plus de 60 ans. C'est un service d'écoute aux personnes qui ont des souffrances psychiques. L'écoute est anonyme, confidentielle, aconfessionnelle, apolitique. Nous sommes reconnus d'utilité publique. C'est important pour les dons, puisqu'il y a une défiscalisation. Nous sommes labellisés prévention du suicide. Donc, nous travaillons avec nos partenaires principaux, sont Santé publique France et la Direction générale de la Santé. Nous sommes intégrés dans les programmes de prévention du suicide. Les appels arrivent sur une plateforme nationale qui sont ensuite dispatchés sur nos 55 postes d'écoute. Nous avons 1800 écoutants sur l'ensemble de la France. Les appels au niveau volumétrie par an ont, sur cette plateforme arrivent à peu près 3 300 000 appels, mais nous ne pouvons décrocher qu'environ 700 000 appels, c'est-à-dire un appel sur cinq. Malgré nos 1800 écoutants bénévoles, nous faisons une écoute 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Nous avons également un service chat et messagerie. Chat, nous avons à peu près 18 000 appels par an qui sont décrochés aussi sur le service chat.
L'association garantit l'anonymat complet aux personnes qui appellent. Impossible donc d'établir le profil de la personne, sa situation professionnelle, sa situation personnelle ou sa situation géographique. Malgré tout, avec les informations dont ils disposent pendant l'appel, ils remplissent certaines fiches. Aujourd'hui, ils sont capables de dire que la majorité des personnes qui appellent sont des femmes et que la majorité des personnes qui appellent ont plus de 50 ans. Le sujet le plus récurrent, c'est bien sûr la solitude. Mais pas que. Ils notent aussi de plus en plus les thématiques abordées lors des appels pour se former à de nouveaux sujets et évoluer. Par exemple, rien que la démarche d'appeler, ça fait le tri dans les générations. Donc ils ont lancé un chat avec un bénévole qui discute derrière l'ordinateur pour pouvoir répondre à la détresse des plus jeunes. Mais dans les faits, les bénévoles, ils ont le droit de donner aucun conseil aux personnes qui appellent. C'est dans leur charte. Donc finalement, ça sert à quoi SOS Amitié ?
Ben, ça sert, alors on est dans le cadre de la prévention du suicide, donc on est, c'est, j'allais dire, heureusement, ce n'est pas la majorité de nos appels. Les appels qui sont liés à des idées suicidaires, ça représente environ 6% de nos appels. Donc sur 700 000, hein, c'est quand même un chiffre conséquent. Les personnes qui sont passées à l'acte et qui nous appellent, malheureusement, ça arrive, c'est très rare. Bon, c'est de l'ordre à peu près de 1000, entre 1000 et 1200 personnes par an. Donc c'est déjà énorme. Ce qui est important, c'est de décharger, de prendre l'angoisse des personnes qui nous appellent. Les personnes qui nous appellent sont en crise, pas forcément en crise suicidaire, mais en déprime, en dépression. Toutes les raisons, précarité, deuil, problème de couple, addiction. Hein, on est un service d'écoute généraliste. Ce sont des personnes qui, à un moment donné, dans la journée, au moment où ils nous appellent, sont prises d'angoisse et ne savent plus en fait. Donc l'objectif de SOS Amitié, c'est que les personnes reprennent le cours de leur vie, reprennent leur vie en main avec leur propre écosystème, puisque bien sûr nous n'avons aucun moyen de savoir ce que la personne nous dit, si c'est vrai, pas vrai, etc. Hein, on prend l'appel au moment où la personne nous appelle. Nous n'assurons aucun suivi, nous ne donnons aucun conseil. Donc évidemment, c'est un peu frustrant des fois, on raccroche et on ne sait pas ce que la personne va devenir. Ça fait partie de l'écoute. Pour autant, le meilleur retour qu'on puisse avoir, c'est quand on a quelqu'un une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure au téléphone, qui nous appelle la voix serrée au début de l'appel et qui raccroche en disant « je vous remercie, je vais beaucoup mieux » et on sent le sourire dans cette personne. C'est ce qui nous fait le plaisir.
Comme toute association qui se respecte, SOS Amitié manque de bénévoles. Ils lancent régulièrement des appels pour former de nouveaux écoutants. Mais parfois, ça ne prend pas toujours à cause de la situation géographique du futur bénévole. Alors la présidente, Ghislaine, qui est en mandat jusqu'en 2025, a décidé, pendant son mandat de présidente, de mener deux gros projets pour essayer de trouver des solutions à ces problématiques.
Alors ces deux projets, ils sont assez complémentaires. Le premier, c'est d'avoir plus d'écoutants en ouvrant de nouveaux lieux d'écoute. Aujourd'hui, nous sommes implantés majoritairement sur des villes de moyenne importance et les candidats, quand ils habitent trop loin du poste d'écoute, c'est pas possible de les conserver en tant qu'écoutants. Donc l'objectif, c'est d'ouvrir dans des lieux, dans des villes plus petites encore, mais d'avoir des petites équipes de 7-8 écoutants localement. Donc avoir plus d'écoutants pour pouvoir prendre plus d'écoute, hein, je disais tout à l'heure un appel sur 5, l'objectif c'est quand même d'aller sur un appel sur 3, voire même si on peut aller plus loin, ça sera encore mieux. Le deuxième projet important, c'est un petit peu la professionnalisation, entre guillemets, de nos outils numériques. Donc nos outils numériques, c'est bien sûr l'intranet et le service public et le site public, donc à disposition de tout le public, mais également notre outil statistique qui nous sert à valoriser l'activité de SOS Amitié.
Aujourd'hui, SOS Amitié compte 1800 bénévoles. J'ai eu l'occasion d'en rencontrer deux écoutants qui sont proches de Lyon. Je les ai rencontrés en décembre dernier et du coup, je te les présente maintenant.
Je m'appelle Quentin, j'ai 27 ans et je suis écoutant à SOS Amitié à Lyon. J'ai entendu parler de l'association dans un livre sur la négociation où l'auteur expliquait qu'il voulait devenir négociateur et quelqu'un lui a dit « bah voilà, va t'occuper de la hotline pour le suicide » et il l'a fait. Et j'étais jeune à l'époque, j'avais 22-23 ans, et je sais pas pourquoi l'idée m'est restée en tête. Et j'avais fait pas mal de caritatifs quand j'étais plus jeune, mais pas dans ce domaine-là. J'avais été à l'hôpital pour voir des enfants, pour faire des tours de magie à droite à gauche. Et arrivé à Lyon, le lendemain de mes 25 ans, je me suis dit, bah en fait, je pourrais aller participer à SOS Amitié, donc il faut avoir 25 ans révolu pour le faire, donc j'ai m'envoyé ma candidature. Et à la base, je savais pas du tout ce que ça allait être. Et j'ai fait la formation, ça s'est bien passé, je me suis vraiment pris de passion pour l'écoute. Et à tout moment, je me suis quand même dit, c'est vraiment très difficile, c'est quelque chose qui me pose problème, en tout cas dans l'apprentissage. Et à plein de moments, je me suis dit, bah si ça marche pas, j'irai au Resto du Cœur, distribuer des repas, quelque chose qui sera moins émotionnellement difficile. Mais tant que je peux, et que j'ai l'opportunité de le faire, j'aime autant aider les gens, en tout cas par l'écoute.
Donc je me prénomme Bernard, j'écoute avec l'association locale de Grenoble et donc avec un poste déporté à Bourgoin-Jallieu. En période post-Covid, je cherchais en tant que jeune retraité une occupation costaud, quelque chose d'un peu structuré en termes d'association. Je cherchais du local et je suis tombé sur SOS Amitié.
Avant d'entendre parler Quentin et Bernard de leur engagement auprès de l'association, auprès d'SOS Amitié, j'avais envie de connaître la place des amitiés dans leur vie. Qu'est-ce que cette relation représente pour eux, pour qu'ils aient eu envie de rejoindre l'association SOS Amitié ?
C'est un grand mot, l'amitié. C'est un mot un peu magique. Dans les tout débuts d'une vieille association comme SOS, ça s'appelait SOS Détresse Amitié. Ça, je l'ai appris parce que je suis quand même relativement jeune écoutant. J'aime bien me rappeler de ça parce que finalement, on n'a gardé que amitié et ça inclut tellement de choses. L'amitié, ça inclut avant tout un rapport à l'autre. Une capacité qu'on soit à distance, comme c'est le cas d'avoir quelqu'un au téléphone, qu'on se connaisse peu ou pas, comme c'est le cas quand on est dans l'anonymat garanti par notre appel, dans le cadre de nos appels du moins, que ce soit quelqu'un qu'on voit tous les jours, à quel point est-ce que cette amitié elle est manifeste, à quel point on peut l'exprimer, à quel point elle est viable. Et donc la diversité des échanges qu'on a avec nos écoutants, ça donne vraiment tout le panel de ce que peut représenter l'amitié.
C'est quelque chose auquel je réfléchis pas mal, notamment un peu plus ces dernières années, parce que mon emploi du temps s'est beaucoup rempli avec les années, et je pense que c'est un peu le cas de tout le monde, où on a tendance à dire oui à des projets, à dire oui à des activités. Et je me suis rendu compte que, fatalement, c'est un peu comme avec SOS Amitié, il faut du temps pour faire des choses importantes. Et parfois, c'est du temps que je vais avoir tendance à chercher sur les activités un peu sociales, juste aller se poser dans un bar et boire un verre, c'est des choses où j'ai moins le temps de le faire, alors que c'est des activités que j'aime beaucoup. Mais fatalement, je fais quelques sacrifices pour me dire, bah en fait, il y a d'autres choses importantes à côté. Et j'ai dû avoir cette discussion avec certains amis où je me suis dit, bah là, en fait, soit il y a des amitiés qui me conviennent pas. Et récemment, j'ai mis fin à une amitié parce que je me suis rendu compte que ça allait surtout dans un sens. Et j'étais toujours dans la demande et cette personne-là était rarement dans l'offre. Et donc, on a eu une discussion. J'ai dit, voilà, notre amitié ne me convient pas. Je pense que c'est mieux que cette relation reste là. Et après, finalement, le reste des amis que j'ai, et j'ai la chance d'être bien entouré, c'est des amis où je sais que je peux ne pas être dispo pendant quelques temps, parce que parfois j'ai des championnats, parce que parfois j'ai les cours, parce que parfois j'ai le boulot. Mais en fait, quand on se voit, ça change pas grand-chose. Mais j'ai du mal à être disponible par message, et c'est des gens qui l'entendent parce qu'ils sont eux-mêmes très occupés. Et finalement, c'était aussi un exercice de communication. On a mis un peu les pendules à l'heure, on a mis les points sur les i, on dit voilà, des fois je suis moins dispo. Si jamais tu as besoin de moi, je suis là, tu faut pas hésiter à m'appeler, puis je prends du temps si c'est nécessaire. Et après, pour les activités au jour le jour, bah forcément, c'est un peu chacun sa sauce.
Et surtout, le plus intéressant pour moi, c'était de savoir comment leurs amis ont réagi quand ils leur ont appris qu'ils rejoignaient SOS Amitié.
Il y en a beaucoup qui m'ont demandé pourquoi. Il y en a beaucoup qui ont trouvé ça intéressant. Intéressant dans le sens où voilà, c'est un projet, c'est du social. Et il y a aussi cet aspect où fatalement, quand on fait du social, les gens ont l'air de penser qu'on est une bonne personne. Mais c'est pas si simple que ça. En réalité, je sais que moi, au départ, quand j'ai commencé, c'était sûrement pour les mauvaises raisons. Et j'aime penser que je me dirige petit à petit vers les bonnes raisons pour faire de l'écoute. Il n'y a peut-être pas de bonnes raisons, mais en tout cas que c'est plus sain. Ma mère m'a demandé pourquoi je faisais ça et si je voulais pas me reposer plutôt à la place. Mon frère m'a dit ah bah non c'est sympa et puis mes amis m'ont dit non ok bah c'est intéressant. Mais c'est intéressant aussi parce que c'est quelque chose dans lequel moi à la base je me destinais pas à ça. Je suis plutôt dans le marketing, plutôt dans l'idée de vendre des trucs qui servent pas forcément à grand chose. Et là pour le coup ça m'a aussi fait du bien de faire quelque chose de social et je pense que mes amis l'ont ressenti. C'est que ça me permettait d'élargir un peu mes horizons et d'être dans la communication un peu plus.
Alors pour beaucoup, c'était comme une évidence, les gens qui me connaissent vraiment, j'ai quelques dizaines d'années de vie quand même derrière moi, et les gens qui me connaissent n'ont pas été surpris plus que ça. Et pour beaucoup, ça a démystifié une certaine image de, est-ce qu'on se rappelait de la caricature du film, de la pièce de théâtre de l'époque, qu'est-ce qu'on perçoit, mais dans tous les cas de figure, ça évoque quelque chose. SOS Amitié dans l'imaginaire collectif, aussi bien individuel. Et c'est souvent l'occasion, ça m'a donné l'occasion en tentant d'expliquer ce que c'était. Au début, c'est pas facile. On découvre tous les jours, c'est ça qui est fabuleux d'ailleurs. C'était l'occasion, en tentant de leur expliquer, de moi-même découvrir. Je trouve que j'en ai pour des années à encore découvrir ce que c'est que cette capacité ou pas à répondre dans le cadre d'SOS Amitié.
Comme on l'a dit depuis le début de cet épisode, l'association ne peut pas mesurer la réussite ou non d'un appel. Puisqu'ils ne prennent pas les coordonnées de la personne, ils ne peuvent pas savoir si la personne va rappeler ou pas ce qu'elle est devenue. Donc ça peut être un peu frustrant. Donc concrètement, je me demande, quand on est écoutant, qu'est-ce que ça apporte d'être bénévole à SOS Amitié ? Égoïstement, je me dis que c'est hyper frustrant. Donc je voulais vraiment poser la question à Quentin et à Bernard.
Du point de vue de ce que ça m'apporte, j'y ai pas mal réfléchi. Je pense qu'au début, c'était un intérêt, une curiosité parfois un peu malsaine, mais par rapport à quelque chose que je ne connaissais pas, aussi un challenge intellectuel, parce que c'est... En tout cas, moi, j'ai trouvé le processus d'apprentissage assez difficile. De dire, on prend un téléphone, on décroche, la personne, on ne sait pas du tout ce qu'elle va aborder. On a quand même une volonté de faire bien et que la personne a ensuite elle raccroche en disant potentiellement, bah merci, j'ai passé un bon moment, vous m'avez aidé. Je pense que quand j'ai rejoint l'association, j'avais aussi peut-être ce fantasme un peu malsain du chevalier qui débarque et qui va sauver des gens du suicide, mais en fait, c'est pas du tout ça. Le processus d'idéation suicidaire, il est très long. Les gens, peut-être qu'ils sont pas du tout dans ce processus-là, mais peut-être qu'ils y sont. Et s'ils y sont, bah, ils sont probablement pas dans l'idéation suicidaire. Ils sont peut-être un petit peu au-dessus ou très très en amont, et nous, on les interrompt, on les intercepte, on essaie de les accompagner dans l'autre sens, à un moment, dans ce processus-là. Et j'ai appris aussi à me détacher du résultat de l'appel. C'est-à-dire que l'appel, globalement, il n'est pas pour moi. L'objectif, c'est pas que je me sente bien à la fin de l'appel, c'est que la personne qui appelle, elle trouve quelque chose. Elle est venue chercher un moment d'échange. Et j'ai appris aussi à me détacher du coup de cet aspect où j'attendais un résultat et à la fin de l'appel, je me dis voilà, c'était pas parfait, c'était pas idéal. L'important, c'est que la personne, elle soit contente et qu'elle ait raccroché de plein gré.
Ben, ce qui me fait durer, c'est la perception que j'ai eue depuis le début de ma formation. Vraiment, les items que dispense SOS Amitié pour la formation initiale et encore plus sur la formation continue, tout ce qui suit, c'est ce sentiment de dire, bon, si je me sens à ma place, je peux rester longtemps. Pour mon cas, c'est ça, je me sens totalement à ma place. Quand je me suis investi, en plus de mon job, entre guillemets, d'écoutant, en plus de mes écoutes, effectivement, je me focalise un peu sur l'aspect communication de l'asso, parce que j'ai à cœur qu'elle soit connue pour ce qu'elle mérite d'être connue, de l'aide qu'elle peut apporter, de plein de façons, à plein de gens tellement différents. Ce qui fait durer, c'est le côté, on n'a jamais... Je pense qu'on en a pour des années à comprendre. En ce qui me concerne, je suis persuadé de ça. Je vais continuer à apprendre de moi-même, sur moi-même. Ça sert toujours, c'est sympa quand même de se connaître mieux soi-même. et surtout d'approfondir ce comment est-ce que j'arrive tant que ça à me mettre au niveau de la personne qui m'appelle. Quand je dis au niveau, c'est pas une question de hiérarchie, c'est pas une question de posture, c'est une question de cœur. Voilà, dans quelle mesure c'est un défi qu'on se lance à soi-même. Moi, je me dis, dans 2 ans, en 5 ans, je veux être encore plus apte qu'aujourd'hui à écouter profondément quelqu'un.
Ils restent tous les deux assez flous sur les thématiques qu'abordent les personnes qui les appellent, puisque c'est dans leur charte. Ça permet de respecter l'anonymat des personnes qui appellent, mais c'était important pour moi quand même qu'ils racontent leur première et leur dernière écoute. Quelles étaient leurs émotions à ce moment-là quand ils ont décroché le téléphone? Qu'est-ce qu'ils ont ressenti après avoir raccroché? Ils nous racontent.
Ah, j'avoue que la première écoute que j'ai fait personnellement, donc après la formation, m'a beaucoup moins déstabilisé que ma première double écoute que j'ai fait dans le cadre de ma formation. Donc cette double écoute, c'est ce que tout nouvel écoutant formé à SOS doit entre guillemets subir. Au début, c'est un peu moi, ça m'avait un peu plus terrifié que l'idée de me retrouver seul au téléphone avec quelqu'un que je ne connaissais pas. C'était d'être à côté d'un écoutant, donc formé, qui lui répondait à une personne véritable qui appelle. Donc d'avoir à écouter ce que dans un premier temps ce qu'on répondait à quelqu'un qui appelle SOS Amitié, et le deuxième temps, alors carrément qui peut être terrifiant. Moi, j'étais pas fier, quoi. C'était de prendre l'appel la première fois quand on décroche, on dit bonjour SOS Amitié, mais qu'on a à côté de nous un écoutant ou une écoutante chevronnée qui est notre tuteur en quelque sorte, qui contribue à notre formation. On se dit waouh, qu'est-ce qu'elle va penser cette personne de ce que je vais répondre, quoi. C'était assez touchy, mais ça passe très vite. On rentre très vite dans quelque chose qui nous dépasse d'une certaine façon. Ah, la toute dernière, c'est en bout de nuit, vraiment, c'est la semaine dernière, et c'est assez particulier. La dernière écoute, quand on se dit, bon, allez, là, ça fait tant d'heures que j'écoute, on a donné, on a reçu, et on se dit, là, la dernière, est-ce que c'est vraiment la dernière? Parce qu'il y a cette magie un peu du dernier instant, et c'est vrai pour ma dernière écoute, comme ça l'a été dès le départ, quand on prend la ligne, on a décidé de donner son temps, on donne de soi, on donne de sa personne, et finalement on ne sait pas ni le contenu ni le temps que ça va durer. Donc la dernière écoute, elle est vraiment ma dernière, c'était ça aussi, me dire bon, c'était au milieu de la nuit, je vais me coucher ou pas.
Extrêmement stressé, très très stressé. C'était en fait, c'est un challenge un peu de, donc en tout cas au début c'était vraiment un challenge de tous les instants, d'arriver, de dire ok, là il y a un appel et il faut que ça se passe bien. Et justement dans ma tête, il faut que ça se passe bien, il faut que la personne elle soit contente, il faut que la personne sorte de l'appel en me disant merci beaucoup, c'était super, je vais beaucoup mieux. Et c'est naïf parce que c'est pas du tout comme ça que ça se passe, et dans la majorité des cas les gens ils ont même pas un problème à résoudre. Dans la majorité des cas ils appellent parce qu'ils ont 5 minutes, ils se sentent seuls, ils veulent discuter un petit peu avec quelqu'un, et moi il se trouve que je suis là pour répondre. Et donc très stressé, mais finalement, il y avait aussi le fait que dans la formation, on voit tous les cas extrêmes. Tous les cas extrêmes, et donc je sais pas à quel point je peux les nommer les cas extrêmes, mais forcément ça parle de suicide, ça parle de pas mal de violence, de choses qui sont en relation avec le sexe, de violence sexuelle, de plein de thèmes qui sont simulés du coup quand on est en formation parce qu'on n'est pas prêt à recevoir des appels. Mais sortie de formation, moi j'avais vu tous ces thèmes-là et on s'était formé tellement au pire que je m'étais aussi fait un monstre dans ma tête en me disant bah je vais décrocher l'appel et ça va être un tueur en série qui va appeler pour me dire que là il va tuer quelqu'un. Et en fait pas du tout. En fait la majorité des cas c'est des appels qui sont pas, j'ai pas envie de dire normaux, la majorité des cas c'est des appels qui sont voilà, des gens comme vous et moi qui appellent parce qu'ils sont un peu seuls et ils ont envie d'appeler quelqu'un, ou juste ils ont envie de discuter, ou ils sont même pas forcément seuls et juste ils appellent SOS Amitié. Et ça m'a pris du temps en tout cas de me mettre en tête que effectivement c'est assez standard finalement. Ça doit pas être un monstre et souvent c'est assez simple. À chaque fois il y a une petite montée d'adrénaline, surtout quand on commence la session. Mais en fait je trouve que quand on est dedans, bah l'adrénaline part assez vite, parce qu'en fait après voilà, une fois qu'on est dedans et qu'on a l'habitude d'écouter, on sait jamais ce qui va se passer. Parfois on décroche et la personne raccroche. Parfois il se passe quelque chose. Parfois il se passe rien du tout. Une fois qu'on est un peu dans le flux du moment, dans le flow, c'est vraiment différent. Mais il y a quand même la montée d'adrénaline, un peu comme avant de monter sur scène, on se dit voilà, voilà, je l'ai déjà fait plein de fois, mais j'y vais quand même. Ben là, c'est la même chose.
Pour que vous puissiez vraiment être en immersion avec le quotidien d'un écoutant, d'un bénévole à SOS Amitié, j'ai demandé à Quentin qu'il nous raconte une journée type quand il arrive au bureau d'écoute. Comment ça se passe ?
Alors, les créneaux d'écoutant durent en gros quelques heures. C'est dur de faire beaucoup plus. Moi, je me rends compte que typiquement, quand j'étais en formation, parfois, je faisais des journées où voilà, j'allais travailler vers 8-9 heures. Je sortais du travail vers 18-19 heures. Ensuite, j'allais au poste pour 3 heures d'écoute. Et à la fin, on a le cerveau complètement free. Ça demande quand même beaucoup d'énergie, l'écoute active. En tout cas, dans mon cas, je pense qu'avec le temps, c'est peut-être un peu moins difficile. Mais en fait, on s'assoit, on lance un petit logiciel qui nous permet ensuite, nous, de renseigner quelques informations, notamment les thèmes abordés, mais totalement dans le respect de l'anonymat. Et après, on décroche le téléphone, SOS Amitié, bonjour. Et après, c'est parti. Et après, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de situation type, il n'y a rien. Il y a l'immense variété et l'infinie minutie de tous les détails qu'on peut rencontrer. Ça part dans tous les sens. On est accompagné, on a des groupes qu'on appelle des groupes de partage, où on se réunit entre écoutants toutes les deux semaines avec un psy du coup qui vient pour accompagner les déclarations et les débats et pour axer un petit peu. Après, il y en a certains qui ont un suivi psy personnellement à côté, donc c'est mon cas, et ça permet justement voilà d'être dans un système où on écoute, on porte des choses aussi qu'après forcément bah comme Bernard le disait, on les ramène chez nous, on vit un petit peu avec pendant quelques temps. Et après, on se réunit tous ensemble et on a l'opportunité de discuter avec les autres écoutants, de dire voilà, moi j'ai eu ça, ça m'a un peu travaillé parce que ça fait écho à quelque chose qui se passait déjà chez moi avec ma relation avec ma famille, machin, machin. Et ça permet d'extérioriser des choses qu'on pourrait porter qui sont parfois un peu lourdes parce que parfois, après 3-4 heures d'appel, même si on s'en rend pas forcément compte parce qu'on écoute et donc c'est pas nous qui vivons, mais ça passe quand même à travers nous, ça peut être un peu lourd.
Alors, très naïvement, pour moi, SOS Amitié, c'était simplement une asso pour celles et ceux qui n'ont pas d'amis. Mais par contre, j'ai découvert que c'était bien plus que ça aujourd'hui. Ça permet d'aborder beaucoup de sujets et de répondre à la détresse de beaucoup de personnes, que ce soit des plus jeunes comme des personnes plus âgées. Et ça, c'était important pour moi de vous le faire entendre.
Certains appelants commencent par nous dire, vous savez, c'était pas facile de vous appeler. Voilà, il y a le côté technique. Malheureusement, on n'est pas assez de bénévoles pour répondre vraiment à tous les appels. Il y en a qui restent longtemps en disque d'attente. Et souvent, ils commencent comme ça, en nous disant, vous savez, c'était pas facile de vous appeler. C'est un premier pas. C'est un premier pas qui souvent leur coûte. Et derrière, dans le même temps, on a énormément d'appelants qui nous disent « Mais depuis que je vous appelle, j'ai quelqu'un. Depuis que je vous appelle, je progresse. » Et on le sent, même s'ils ne nous le disent pas. Donc, quelqu'un qui aurait du mal à appeler SOS Amitié, ça m'est arrivé de répondre à la personne « Si vous pouvez pas parler, ben on reste un peu dans le silence. Et si vous avez envie que je vous pose une question, je vous pose une question. » On se met vraiment, on dédie nos moments à l'autre tel qu'il est. S'il peut pas parler, ben tant pis, on va l'écouter quand même. Même s'il parle pas, vous savez, il y a beaucoup de choses. Dans... on le dit souvent dans les silences, il y a énormément de mots. Donc elle peut appeler, on l'entendra. Et voilà, ça m'est arrivé d'avoir des personnes, c'est dans les silences qu'on a le mieux communiqué.
Alors voilà, tu as découvert SOS Amitié avec les bénévoles sur le terrain. Personnellement, je n'imaginais pas que l'asso faisait autant et que l'on en entende si peu parler. Sauf peut-être à travers « Le Père Noël est une ordure ». Mais bon, c'est largement pas suffisant. Je tiens à dire qu'il faut pas avoir honte de ressentir le besoin d'appeler SOS Amitié. Si ce service existe, c'est parce qu'ils sont utiles. Ils répondent à des personnes en grande détresse, mais pas que. Il y a des appels aussi parfois de personnes qui veulent juste parler, discuter avec quelqu'un. Bref, n'ayez pas honte de les appeler si vous en avez besoin. Et si jamais vous avez d'autres questions sur l'association, que vous voulez devenir bénévole ou toute autre raison, il y aura évidemment tous les liens utiles en description de cet épisode. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Friendship. Si tu aimes le podcast, une seule chose à faire, parle-en autour de toi. Le bouche à oreille, c'est encore ce que l'on fait de mieux. Tu peux aussi suivre mes aventures et celles du podcast sur Instagram, Twitter et maintenant sur TikTok. Tous les liens sont en description de l'épisode. Et puis si tu veux poursuivre l'écoute de Friendship, je t'invite à découvrir l'épisode 19 avec Bérangère Krief et Marine Bausson, un épisode dans lequel on parle de notoriété, de déséquilibre amical et de rupture amoureuse. Et en attendant, je te dis à la semaine prochaine dans Friendship.
« Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tu veux créer un podcast, mais tu ne sais pas par où commencer?
Je pense qu'on a ce qu'il te faut.
Notre programme 30 jours pour créer ton podcast répond à toutes tes problématiques.
La conception de ton projet, le format de ton podcast, les visuels, le titre, l'enregistrement, le matériel, l'hébergeur, le montage, la communication, tout est réuni en un seul endroit pour faciliter le lancement de ton podcast.
Mais au fait, nous, c'est qui nous ?
Moi, c'est Florence, créatrice et hôte du podcast « Avant, j'étais prof ».
Et moi, c'est Solène, créatrice et hôte du podcast Friendship.
À nous deux, on a publié plus de 140 épisodes et réuni 120 invités à nos micros.
Notre aventure podcastique a connu de nombreux rebondissements.
L'euphorie du lancement.
La solitude.
Les doutes.
La persévérance.
La passion.
Et enfin, les audiences qui décollent.
Au fil des années, nous avons affiné notre expertise.
Et aujourd'hui, nous te dévoilons toutes nos techniques pour créer ton podcast en toute sérénité.
Alors, n'attends plus pour faire entendre ta voix.
Rejoins-nous dès maintenant sur formationpodcast.podia.com et le podcast n'aura plus aucun secret pour toi.